You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Ça s'est passé aujourd'hui, c'est donc un 11 mai, direction 1950. Et à cette date était jouée la première représentation de La Cantatrice Chauve, la pièce d'Eugène Ionesco. Coup de projecteur sur cette pièce, donc de Ionesco, avec Émile Matasso et les archives sonores de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort.
Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort?
Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi.
Nous sommes dans le salon de Monsieur et Madame Smith, dans un intérieur bourgeois. Bienvenue dans le monde d'Eugène Ionesco, ce monde que l'on a qualifié, comme ses pièces, de théâtre de l'absurde. La Cantatrice Chauve est la première pièce d'Eugène Ionesco. Elle a donc été jouée pour la première fois le 11 mai 1950 au Théâtre des Noctambules à Paris, dans une mise en scène de Nicolas Bataille. Au début de la pièce, Monsieur et Madame Smith échangent ainsi des propos qui semblent incohérents et ils nous emmènent dans l'univers propre à Ionesco.
La pauvre Bobby.
Tu veux dire le pauvre Bobby?
Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a vraiment pu savoir qui était l'un et qui était l'autre? Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais?
Je ne l'ai vue qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby.
Et quand pensent-ils se marier tous les deux?
Le printemps prochain, au plus tard.
Il faudra sans doute aller à leur mariage.
Il faudra leur faire un cadeau de noces.
Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elles d'être demeurées veuves si jeunes.
Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants.
L'horloge qui sonne tout au long de la pièce sans aucune cohérence, là aussi, elle va sonner 3 fois, puis 5, puis 2, puis s'emballer. Monsieur et Madame Smith ouvrent donc la pièce, puis d'autres personnages vont arriver. Eugène Ionesco, né en Roumanie en 1909, a grandi et il a passé sa vie entre la Roumanie et la France. Il s'est éteint en 1994 à 84 ans. Dans un entretien réalisé en 1960, 10 ans donc après la première de la cantate Chauve, Eugène Ionesco revenait sur ce qui l'avait poussé à écrire cette pièce et à se tourner vers l'écriture théâtrale.
J'ai toujours écrit, comme on dit, des poèmes inspirés de Francis Jammes et de Maeterlinck à la fois, des essais critiques, des débuts de romans et ainsi de suite. Alors j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'est appelée La Cantatrice Chauve pour faire rire les amis. Tout simplement, les amis ont ri, alors je me suis dit que peut-être je pourrais exploiter cette pièce et la faire jouer en entier ou en partie dans des cabarets pour augmenter mes revenus. Mais je n'attachais absolument aucune importance à mon activité théâtrale. Je rêvais aux romans, aux essais.
Vous êtes devenu en quelque sorte un auteur de théâtre malgré vous.
Je suis un auteur de théâtre malgré moi.
La Cantatrice Chauve, elle se joue tous les jours, sans interruption, depuis 1957 au Théâtre de la Huchette, à Paris, dans le quartier latin. 2 pièces de Ionesco sont ainsi jouées quotidiennement à la Huchette, La Cantatrice Chauve et La Leçon, un cas unique au monde. Parmi les autres œuvres célèbres de Ionesco, on peut citer Rhinocéros, écrit en 1959, et Le Roi se meurt, en 1962. L'œuvre de l'UNESCO a défini en elle-même ce que l'on appelle le théâtre de l'absurde. La vie est-elle absurde? Comment lui-même, UNESCO, définit-il ce terme? Écoutez ce qu'il en disait dans cet entretien de 1960.
Il est très difficile de définir le mot absurde. À mon avis, le monde n'est pas absurde à l'intérieur de lui-même. Tout est logique. On a dit par exemple que la mort de Camus était absurde. Elle n'est pas absurde du tout. Une voiture a dérapé, il y a eu un arbre, la voiture s'est écrasée contre l'arbre. C'est tout à fait logique et tout à fait explicable. Mais ce qui me semble absurde, c'est d'exister. C'est l'existence en soi qui me semble non pas absurde, invraisemblable, incompréhensible, étonnante.
Aujourd'hui, et cela depuis des décennies, les pièces de UNESCO sont étudiées dans les collèges, dans les lycées. Et à la Huchette, à Paris, la salle est comble ou presque tous les jours depuis 1957 pour la cantatrice chauve et la leçon, le théâtre de l'absurde, comme dans cette tirade du pompier dans la cantatrice chauve, à en perdre la tête.
Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noce une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être l'une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vignes, dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, Casani Adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune fille, divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune l'une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille dont le bisaïeul chétif portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin, beau-frère d'un portugais, fils naturel d'un meunier pas trop pauvre, et dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié trois fois de suite, et dont la troisième femme...
Oh, mais il me semble que j'ai connu cette troisième femme. Si je ne me trompe, elle mangeait du poulet dans un guépier.
C'était pas la même. Je dis, et dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, qui, veuve de bonheur,
comme ma femme,
se remaria avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie. Elle avait épousé une marchande de 9 saisons dont le frère avait un père, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde, dont le cousin pêcheur à la ligne pour femme une autre institutrice blonde, mais elle aussi mariée, dont le frère avait épousé une autre mari, toujours institutrice blonde.
Oui, puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que mariée.
Et dont le frère avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé dont la grand-mère attrapait parfois, en hiver et comme tout le monde, un rhume.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.